Chinois qui a bénéficié de l'aide indue de trois autres concurrents. Bonne journée sur RFI, elle continue avec 8 milliards de voisins, présenté par Laurence Garcia.
Midi 10 sur la clé des ondes, vous écoutez le plat de résistance et comme chaque vendredi dans ce plat de résistance, on rediffuse des passages de l'émission Achaïra, émission de pollinisation des idées libertaires qui a lieu sur notre antenne tous les premiers lundis du mois de 20h à 22h et que vous retrouvez bien sûr en intégralité en podcast sur notre site laclédesondes.fr. Voilà, tout de suite, Achaïra, la rediff.
Le débat d'actualité.
Allez, c'est parti pour le débat d'actualité. Je vous sens dans vos papiers. Allez. Je vous sens pas prêt à parler à la radio.
Il y avait deux annonces à faire avant de revenir sur Sainte-Soline. On avait l'annonce du festival Bienvenue qui a lieu chaque année, donc à peu près à cette même période, une mobilisation pour les réfugiés donc, et qui vise au départ à soutenir le bateau SOS Méditerranée qui sauve des vies en mer. Et donc on a appris qu'il y avait eu encore aujourd'hui, mais alors pas en Méditerranée, mais plutôt dans la Manche aujourd'hui, 800 migrants, je crois, qui avaient traversé la Manche, qui avaient profité peut-être du lundi de Pâques, je ne sais pas si ça marche, pour traverser, qu'il y en avait 70 qui avaient été, qui avaient échoué, qui avaient été rapatriés. Donc là, c'est du 4 au 14 avril 2024, et donc c'est dans différents endroits. Donc il y a c'est sur toute la métropole. Alors, comment faire pour... voilà, s'il y a le site du collectif bienvenue.fr.
Oui, n'hésitez pas à consulter sur la clé des ondes, l'agenda, ou même Démosphère, où tout est détaillé jour par jour avec les lieux et les heures.
Oui, parce que là, ça fait plus d'une trentaine de...
Ah oui, il se passe quelque chose tous les jours.
À vous dire, donc...
Ouais, parce que c'est du 4 au 14 avril, déjà, c'est voilà. 10 jours.
Et avec plusieurs événements chaque jour. Oui. Donc c'est du théâtre, des chorales, des récits, des projections de documentaires. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre?
Tout simplement qu'il faut y aller.
Des concerts, voilà. Oui.
Voilà, donc là... Donc, comme vous le savez, donc Bienvenue, c'est l'association qui au départ est partie pour soutenir le sauvetage en mer et de financer les bateaux qui allaient sauver les migrants qui se noyaient. Donc, c'est un collectif dont on parle régulièrement. Ce sont des camarades que l'on retrouve dans toutes les mobilisations. Donc, c'est forcément un festival à aller soutenir. Et comme c'est des gens qui gravitent dans la culture, les offres artistiques sont toutes de qualité. Il y avait un autre point sur lequel on voulait aborder, c'était que ce week-end, il y avait les escales du livre.
Les escales du livre, et on voulait effectivement pointer un événement en particulier. Donc le samedi 6 avril à 16h au TN Bar, 3 places Pierre Renaudel, la librairie du Muguet, toujours présente aux escales du livre depuis plusieurs années, propose un débat autour du livre « 10 questions sur l'antifascisme » du collectif La Horde, publié aux éditions Libertalia. Donc, le thème, très, très rapidement résumé, l'antifascisme est bien plus varié que l'image renvoyée par les médias et le monde politique, où on se plaît à le caricaturer. Ce livre présente l'histoire et l'actualité de la lutte antifasciste, ainsi que les enjeux auxquels elle doit faire face.
Voilà, donc allez aux escales à 16h samedi, retrouvez la librairie du Muguet, et puis surtout, allez écouter La Horde, puisque c'est plus que de l'enrichissement, c'est de la formation.
Oui, parce qu'ils auront, la librairie du Muguet aura un stand.
Absolument, voilà.
Et en plus,
organise ce débat. Voilà. Oui. Voilà. Donc, il y aura aussi d'autres auteurs, d'autres débats. Vous pouvez voir sur le site des Escales du Livre de Bordeaux. Et si vous êtes, vous pourrez même y rencontrer des auteurs. Un autre point dont on voulait parler, c'était lundi dernier, il y a eu, donc c'était annoncé au début de l'émission, donc il y a eu la projection d'un documentaire qui a été diffusé gratuitement sur toutes les plateformes et les réseaux, intitulé... ça y est, j'ai un trou.
Sainte-Soline, autopsie d'un carnage.
Voilà, Sainte-Soline de Clarisse Feltin et Maïlys Kider. Alors, on va sûrement discuter de ça, mais je vous ai fait un petit reportage de cette soirée avec des petits mix, puisque moi-même j'étais à la manifestation il y a un an. Donc, pour rappel, on va écouter ce petit reportage qui était à l'Athénée Libertaire, c'était lundi dernier.
De s'asseoir. Là, il y a énormément de monde. On est à l'Athénée Libertaire. On va voir un film sur justement la manifestation de Sainte-Soline avec, je pense, plein de témoignages. Donc, on vous racontera ça après.
Oui, voilà. Il y avait tellement de matière dans ces images. On va voir comment est monté le film. Mais effectivement, on a des souvenirs dans la tête qu'on va revoir sur la pellicule. Ouais.
À tout de suite, François.
Et du coup, on va lancer la projection du reportage Reuf Investigation. Pour la petite histoire, Reuf Investigation, ils ont fait deux reportages sur le sujet des bassines. Il y en a un premier qui est sorti en fin d'année dernière, qui est plutôt sur le fond des dossiers, pourquoi c'est des aberrations, ces projets-là. Et le deuxième, qui vient de sortir il y a une quinzaine de jours, qui est en accès libre depuis ce week-end, en gros, sur le site Reuf Investigation ou sur leur chaîne YouTube, qui on va regarder ce soir. Il s'appelle Sainte-Soline, autopsie d'un carnage. Il retrace vraiment les événements qui se sont passés à Sainte-Soline il y a un an. Et il montre bien, c'est un témoignage qui est bouleversant, qui vient d'avoir les explosions, les blessés, l'obstruction des secours et les mensonges qui ont pu découler autour de ça. Et c'est pour ça aussi qu'il est indispensable, parce qu'il donne à voir ce récit de ce qu'on a vraiment vécu et à l'encontre des mensonges qui ont été proférés à tous les niveaux de l'État, que ce soit le ministre, la préfète, les commandants de gendarmerie, compagnie. Ça s'inscrit dans toute une autre série de témoignages qui ont pu avoir lieu, des très officiels comme le rapport de la Commission des droits et des libertés, et donc par la Ligue des droits de l'homme, qui a dénoncé les violences qui ont été proférées. Il y a eu des témoignages artistiques avec un fanzine qui s'appelle Zadzine qui a été produit. Il y a des chants, il y a tout un tas de témoignages et d'éléments qui contribuent à établir le récit de ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Et donc voilà, je vous souhaite un bon film. Et on prendra du temps pour débriefer, discuter de tout ça après. Merci à vous toutes.
Toutes les chaînes de télé se méfient de l'investigation. Dans les groupes privés, comme celui de Vincent Bolloré, on l'a tué depuis longtemps. Dans l'audiovisuel public, dont le budget dépend désormais du gouvernement, on réfléchit à deux fois avant d'égratigner l'exécutif. Pour financer notre nouvelle série d'enquêtes indépendantes qui vont questionner les pouvoirs politiques et économiques, il ne nous reste plus qu'une seule solution, faire appel à vous.
Ça nous habitera jusqu'à la fin de notre vie.
Un beau rassemblement, mais le souvenir, c'est que c'était beau et triste à la fois, parce que voilà, comme on parle des méga-bassines et du drame du carnage de Sainte-Soline, pour ceux qui prennent la mission en route, ça a été quand même assez dur, cette histoire, très violent.
On avait un cocktail complet de grenades lacrymogènes, de grenades de désencerclement et de grenades assourdissantes.
Et ça montre quand aussi l'état de droit dans lequel état il est, de la démocratie, du débat, du respect à la fois des conventions des droits de l'homme, de droit à l'environnement, du partage de l'eau, de liberté, égalité, fraternité. On ne l'a pas trop vu ce jour-là, et pourtant on était là pour ça. Donc ouais, ça a été, voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on vient voir ce film pour un peu garder la veille Il y a un autre rendez-vous cet été dans les Deux-Sèvres sur cette question.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu en as gardé de ça en toi ?
Ben, j'en ai gardé à la fois un espoir, parce qu'il y avait des milliers de jeunes avec une force, un courage, des beaux jeunes, quoi, comme voilà, que je me dis, ils doivent bien manger, ils doivent prendre soin de leur alimentation. Et donc ça a donné beaucoup d'espoir. Et ils sont l'avenir, moi aussi, mais moins qu'eux, je pense. Et en face, un constat d'un État répressif, mensonger, je dirais, dans la mesure où il y a eu quand même beaucoup de déclarations qui sont pas la réalité, qui sont, voilà. Et donc il y a presque une désinformation sur le compte rendu. Il s'est passé des choses à Mel, où il y avait une cantine, où il y avait des concerts, où il y avait des débats, où il y avait un marché de producteurs, où il y avait une vie vivifiante. Par exemple, ça a été très peu évoqué dans les médias, hein, alors que ça faisait partie de l'ensemble de la manifestation. Donc on aurait bien aimé qu'il y ait un peu aussi de reportage pour montrer les endroits de débat, les endroits où on discute, et plutôt que les affrontements, quoi.
Alors voilà. Moi, j'ai envie d'un peu discuter avec toi. Je me dis, mais quand on y a été, est-ce que ça donne quelque part, c'est pas une question, c'est quand on y a été, ça donne envie d'y revenir, en fait. Il y a ce truc-là, il y a ce goût d'y j'y reviens.
Ben, on peut pas rester comme ça. On peut pas rester en disant, bon, voilà, c'est comme ça, être fataliste, on a appris machin et tout ça. Non, on y revient, quelque part, c'est dans notre manière de vivre tous les jours, notre rapport à la nature, à l'écologie, la consommation de l'eau. On apprend tous les jours comment faire autrement. Il y a des alternatives, existent. Et dans ces rassemblements, au-delà de l'aventure humaine, on apprend plein de choses. On est dans l'encyclopédie vivante de l'écologie. Voilà, et qui donne, quand on ressent des choses par rapport à l'état du monde et qu'on se retrouve à plusieurs milliers à le partager. Mais quelle richesse, quoi.
C'est hyper déterminé, ça fonce dans le tas.
Voilà. C'était donc un reportage qui mêlait à la fois le documentaire, des interviews à l'Athénée Libertaire, et puis ce que vous avez entendu dans les derniers sons, c'est la manifestation de Sainte-Soline avec ces maisons, c'est-à-dire j'y étais, et c'est ce que j'ai enregistré. Et d'ailleurs, j'avais à l'époque réalisé un petit reportage d'une dizaine de minutes sur les gens qui chantaient. Voilà, donc c'est juste, je vais faire un petit retour rapide sur ce documentaire et cette soirée, c'était chouette de le voir à plusieurs, de se retrouver ensemble. Je pense que c'est vraiment un documentaire qui peut vous plomber si vous le regardez tout seul, parce qu'il est réellement centré sur les violences policières, sur le déni de démocratie, sur le mensonge d'État, et donc à un certain moment, ça peut être un petit peu difficile. La critique que moi je vais porter un petit peu sur ce documentaire, c'est peut-être sa force, qui est vraiment qui a tous les codes de la télévision, c'est-à-dire que c'est à la fois, il y a du violon, c'est lacrymal, on est face à des personnes qui sont seules, les victimes sont seules, alors que les victimes, elles sont en collectif, quoi. Voilà. Et donc on est vraiment dans la construction du reportage qu'on peut voir sur des grandes chaînes, et moi ça m'a un petit peu gêné parce que justement, ils invoquent le fait de se réapproprier un récit, le récit de ces luttes-là. Et s'ils ne remettent pas en question aussi cette forme, celle de la construction même du documentaire, c'est-à-dire qu'on essaye de voir comment ça se passe. Moi, j'ai le souvenir de Patrick Balbastre qui, quand il faisait des documentaires, disait « Mais moi, quand je prends des ouvriers, je ne les prends jamais seuls. Je les mets plusieurs parce que c'est une voix collective. » Et donc, c'est ça qui, à un moment donné, j'ai trouvé que ça gardait un petit peu ça. Et puis, alors, donc, cet appel de se dire qu'aujourd'hui, la seule alternative, c'est le co-funding, c'est-à-dire essayer de ramener de l'argent. Enfin, faut se payer l'information. Là aussi, je pense que ça veut dire que on est dans un état de résignation et que voilà, maintenant, si c'est pas nous-mêmes qui nous payons, alors je veux pas dire que on doit pas se payer nos propres informations, mais il y a un moment donné qu'il faut aussi arrêter les autres informations et toute forme de fake news. Donc j'étais content de me retrouver à l'Athénée Libertaire, d'y retrouver tous ces gens et notamment François qui parle, avec qui on s'est rappelé ces bons moments. Et à la fois, je suis mesuré et assez critique sur la forme et peut-être même le fond de ce documentaire qui, je pense, est peut-être ne montre pas tout ce qu'il y a à montrer. Voilà. Donc, voilà mon temps de critique. Attends, je te mets ton micro.
Oui, il est réalisateur.
Non,
il n'était pas là.
Non,
il y avait. En termes de discussion, qu'est-ce que.
En fait, il n'y a pas eu de discussion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont proposé un tour de parole. Je pense que les gens étaient quand même assez. Abattus par ce documentaire. Je crois que les gens qui étaient là avaient envie de le regarder, mais pas forcément envie de discuter. Et les gens qui ont appelé à ça n'en faisaient pas. Un temps formel, quoi. Ils ont dit voilà, si vous voulez. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui ont chanté, voilà, qui ont repris les chansons de cette mobilisation, et ça a chanté, ça a bu des coups. Bon, faut dire que c'était lundi, hein, début de semaine. Il y a un truc qui s'appelle le travail le lendemain, donc voilà, on n'a pas demandé à plus de débats.
Mais il y avait beaucoup de monde, non ? Il y avait beaucoup de monde.
C'était rempli.
Ouais, ouais.
C'était rempli comme un œuf. Les gens étaient assis par terre. Essentiellement des gens qui étaient à Sainte-Soline. Donc il y avait, et c'était vraiment chouette d'entendre les réactions, les rires, les applaudissements pendant ce voilà. C'était très bien d'être ensemble. Mais c'est une œuvre collective, Sainte-Soline. Il faut que ça le reste. Et c'est sûr qu'il faut pas regarder ce documentaire tout seul, quoi. Voilà. Il faut s'accompagner.
Oui.
Pardon.
L'affiche qui annonçait l'événement disait projection soins. Est-ce que c'était vraiment parce qu'il y avait idée d'une sorte de thérapie derrière
Je pense, de toute façon.
Parce que ce moment, ça nous a un peu intrigués.
Ouais, mais...
Et puis après, on s'est dit, oui, ça doit être retrouver en étant des.
C'est ça, Fabienne.
Des participants.
C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a quand même un moment traumatique. Hein, et quand on regarde ce documentaire et qu'on voit notamment Serge avec sa tête cassée et un casque qui le protège, bon, voilà, c'est vraiment plombant. Quand on voit qu'il y a une jeune fille qui se fait exploser la figure, qu'il y a encore ce sourire, mais qui est traumatisé à vie. Donc, il y a vraiment quelque chose de difficile là-dedans. Et c'est ça, je trouve que c'est parti. Puis bon, j'ai quand même une critique politique quand même sur ce documentaire, je vais vous le dire. C'est-à-dire que la plupart des gens qui interviennent sont des politiques qui sont à ELV, des députés, des sénateurs, des membres de parti. Il y a un membre de la Confédération paysanne. Très peu, pas du tout, des gens du soulèvement de la terre, en tout cas, qui sont pas... les personnes qui étaient là n'ont pas parlé. Alors, pas identifiés, mais en plus, c'est des gens qui, de toute façon, parlaient aux médias. Donc, je pense que dans la chronologie de la construction de ce documentaire, les soulèvements de la Terre étaient eux-mêmes sous une procédure de dissolution. Donc, ça devait être compliqué pour eux de savoir à quel endroit et quel moment ils devaient parler, surtout qu'il y avait une forme de responsabilité sur ça. Voilà, on est... Donc, il y a un moment donné, il manque des paroles. On sent bien que dans quelques mois, il va y avoir des élections européennes. En fait, j'ai fait ce lien-là en voyant Benoît Biteau, qui est député et donc qui est éleveur dans les Deux-Sèvres, et qui concrètement était... interviewé par Mediapart, et donc je pense que pour lui, ce film fait partie du lancement de la campagne des Européennes. Donc, voilà, il y a quelque chose qui est d'une forme d'organisation entre un documentaire un peu trop formel, un peu trop télévision, de membres de députés qui sont là, alors qu'il y avait plein d'autres mondes et plein d'autres actrices de ce mouvement-là à rencontrer, à témoigner. Voilà. Donc, c'était quand même un beau moment de se retrouver tous ensemble. Voilà.
D'accord. Et c'est un documentaire qu'on peut voir ?
Il est accessible sur YouTube, donc on peut le voir sur son ordinateur, sur son téléphone, mais pas seul. Voilà. C'est le dernier...
Mon dernier conseil.
Le dernier conseil. Donc, vous l'avez entendu, vous êtes sur Chaïra, sur La Clé des Ondes, et c'est peut-être le moment de passer une petite pause musicale.
Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille? Je veux te quitter, je veux m'en aller, je veux recommencer ma vie. J'ai traîné dans tous les cafés, j'ai fait la manche bien des soirs. Les temps sont durs, suis même pas sûr de me payer un coup à boire. Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille? Je veux te quitter, je veux m'en aller, je veux recommencer ma vie. J'ai mal à la tête et les punaises me guettent, mais que faire dans un cas pareil? Je demande souvent aux passants de me payer une bouteille. Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille? Je veux te quitter, je veux m'en aller, je veux recommencer ma vie. Dans la nuit, j'écoute la pluie, un journal autour des oreilles. Mon vieux complet est tout mouillé, mais j'ai toujours ma bouteille. Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille? Je veux te quitter, je veux m'en aller, je veux recommencer ma vie.
Graham Allwright, jolie bouteille, sacrée bouteille. Donc on venait de parler de Sainte-Soline, mais là il ne s'agissait pas d'une bouteille d'eau. Mais si cette chanson fait partie de notre programmation ce soir, c'est parce qu'on a évoqué l'ivresse des communards, une calomnie bien sûr. On a parlé de l'IVE des briseurs de grève ivrognes, hein, des ouvrières de Penzardine. Et Graham Allwright, lui, ben, il souhaite se débarrasser de son addiction dans cette chanson. Bon, un petit mot sur Graham Allwright, rapidement. Il a connu un certain succès en France dans les années 70. Et refusant la relation artiste-admirateur classique, il mène une carrière en marge des médias. Et notamment sa participation donc, dans les années 70 hein, à la lutte du Larzac et contre les essais nucléaires français lui vaut d'être censuré. Voilà.
L'invité.
Allez, c'est à vous pour l'invité. On est reparti.
Donc, voilà, vous êtes sur Chaïra aussi, l'émission de pollinisation libertaire sur la clé des ondes 90.1 MHz. Voilà. Et donc, nous avons, dans cette petite chronique, parlé de deux revues que nous avons reçues. Donc là, on a reçu une revue, on en parle de temps en temps, mais pas souvent, de revue de littérature prolétarienne. Donc là, il y a une revue format A4 pour une centaine de pages, et 140 même, un peu plus. Et donc, un gros pavé, je ne sais pas quelle est sa fréquence. Donc, c'est le numéro 8 de Fragment, revue de littérature prolétarienne, édité par le Cercle culturel de littérature ouvrière, paysanne et sociale. Et donc, il y a un certain nombre de fragments, on va dire. Donc, il y a des auteurs comme Franck Thiriot qui parle de ses souvenirs de gamin parisien, de sa rencontre avec Le Coin. Il y a Éric Louis aussi, qui est un cordiste. Les cordistes, ce sont ces gens qui travaillent au bout d'une corde pour aller nettoyer un certain nombre de silos et autres. Et voilà, mais c'est aussi un auteur. Et donc, il dit que dans ses références, eh bien, il y a Cavana. Voilà, donc, il y a un gros dossier donc, de Philippe Geneste que nous recevrons le mois prochain. Donc Philippe Geneste, depuis le numéro 1 de cette revue, raconte ses lectures prolétariennes entre 1970 et 2020. Et donc pour ce numéro, pour cette quatrième partie, il parle de ses lectures entre 2000 et 2020. Et donc il y a question d'écriture, d'atomisation de la classe, enfin de beaucoup de lectures qu'il a fait, donc, et apparemment du style de l'écriture aussi.
Voilà, et qu'il viendra nous présenter, c'est ça.
Voilà, c'est ça, mais alors pas nécessairement la revue Fragment, où celle y collabore, mais que, voilà, qu'il anime pas, mais d'autres revues, comme le Chien d'An dont on a déjà parlé, où il sera question d'un dossier sur la littérature prolétarienne, et d'autres revues là-dessus.
D'accord.
Raphaël Romney aussi, donc, qui est un postier, qui parle de son expérience, de ses souvenirs d'enfance, dont le foyer d'orphelin de la guerre des personnels des PTT de Cachan. Voilà, dont il raconte. Il y a aussi l'annonce d'un colloque, Michel Ragon, les 8 et 9 juin à la GK, donc... un des auteurs d'une compilation sur la littérature prolétarienne, et Thierry Maricourt, qui a aussi écrit un dictionnaire de littérature prolétarienne, lui s'interroge sur savoir si Stieg Dagerman est bien un écrivain prolétarien. Donc c'est assez intéressant, parce qu'il dit oui par ses origines, il dit non par son métier...
Non.
Bon, il y aura discussion.
Parce que son métier, voilà, c'est d'être écrivain, donc il peut plus être écrivain et prolétaire. Mmh. Et oui, par son style, donc voilà, on reste sur la question, qu'est-ce que vraiment un écrivain prolétarien à travers ces interrogations? Voilà, donc ce numéro, il est... on peut le commander, puis on va peut-être essayer de... Voilà, on a envoyé pour le proposer à la librairie du Muguet, donc on verra. Et donc, c'est 5 numéros, 35 euros, voilà. Et l'adresse, on la laissera peut-être sur le site de l'émission.
Très bien.
Parce que c'est à Franconville-la-Garenne, alors.
Ah oui. Mais oui. Voilà. Oui. Je connais.
Le Cyclops. Ah bon, tu connais.
Oui.
Bon,
mais... voilà, j'y ai de la famille, mais pas...
Pas du Cyclops.
Non. Voilà, voilà.
Bon, mais écoute, on passe à la seconde revue.
Oui, voilà, très bien, d'accord.
Et donc la seconde revue, c'est les Chroniques noires et rouges, donc qui se présente, c'est le numéro 16, là, de mars 2024, qui se présente comme une revue trimestrielle de critique bibliographique du mouvement libertaire, et je ne sais plus qu'est-ce que... soit en extrait quelques...
Moi,
j'avais relevé quelques... Sans en débattre nécessairement, mais j'avais relevé quelques articles comme ça qui m'avaient accroché. Donc, André Bernard qui revenait sur le volume 1 de l'histoire du sabotage de Victor Cachard. Donc, je pense qu'on a déjà parlé...
On avait le projet d'en parler pour l'émission prochaine. D'en faire une chronique et de développer.
Voilà, et donc il annonce que le volume numéro 2 paraîtra en mars de cette année. Donc
oui, il était en suspens. Voilà, la parution était en suspens. Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Miguel Chouéka revient, mais il finit pas son article, il le finira dans le prochain numéro, sur l'incendie de la Scala, dont il estime qu'il n'est pas la cause de la scission des deux CNT, que le fruit était dans le germe avant. Non, pas ça.
Enfin, bon. Il y a des gestes divers et variés autour de la table que les auditoristes ne peuvent pas voir, mais bon.
Voilà, bon.
Mais il y a une suite, non, à cet article?
Il y aura une suite à cet article. Le trimestre prochain.
Ah là là, bon, donc, nous allons être tenus en haleine.
Donc 6 mois, en septembre, peut-être à l'automne, on vous dira la conclusion.
On en reparlera.
Donc ensuite, Thomas Sibanias raconte sa rencontre avec Catherine Malabou en Italie. Alors, ça y est, j'ai oublié la ville où c'était, mais en fait, ça devait être dans le centre, c'était pas de l'Italie, sur Au Voleur, et sa version italienne de Au Voleur. Qui c'est qu'il y a aussi Claire Ozias qui chronique le lycée de la critique le livre de Vanina et les leurs postmodernes. Donc voilà, ou entre autres, mais elle revient sur les questions de, elle dit que les leurs postmodernes, c'est les questions de confrontation entre l'affirmation d'un féminisme universaliste en opposition à deux autres au féminisme plus moderne, et donc
oui, parce qu'il y a quelque temps elle avait déjà écrit un article autour de ces problématiques là.
Voilà, c'est ça, le titre, c'est les leurs postmodernes contre la réalité sociale des femmes.
Ben, dans un autre genre, toujours dans ce même numéro des Chroniques noires et rouges, Claire Ozias, pour rester sur Claire, commente le livre d'Abel Paz, Au pied du mur, Mémoire 1942-1954, qui vient de sortir aux éditions La Rue des Cascades. Donc, il est important de rappeler que c'est la dernière publication des éditions Rue des Cascades, puisqu'en fait, c'était un projet qui était dans les tuyaux au moment de la mort de Marc Thompson, qui gérait la Rue des Cascades, cette édition-là.
Moi, je n'ai plus juste un autre à annoncer.
Oui,
j'espère qu'on y reviendra. C'est Jean-Louis Fondvent qui chronique le livre de Sylvain Boulouk, Meurtre à la Grange aux Belles, qui est un polar, où il fouille les archives. Ouais, il ne faut pas y en parler. Et bien voilà, c'est un polar, mais à travers les... C'est le rythme d'un polar, le titre d'un polar, où à travers les archives, il remonte, et c'est quand les communistes flinguaient les anarchistes. Voilà, entre autres, il y a bien d'autres livres. J'ai pas dit que c'était romancé. Le polar, c'est le style haletant qu'il a mené.
Non, c'est ce qui a fait démarrer Thierry au quart de tour, mais c'est parce qu'il s'est dit, mais non, c'est vrai, c'est pas de la littérature.
Allez, on est parti pour une petite pause musicale.
À coups de chasse-peau, à coups de mitrailleuse, et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte.
Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas,
que la commune n'est pas morte. Comme faucheurs rasant un pré, comme on abat des pommes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes. Et les 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte.
Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas,
que la commune n'est pas morte. On a bien fusillé Varlin, Flourens, Duval, Millière, Ferré, Rigaud, Tony Moilin, gavé le cimetière. On croyait lui couper les bras et lui vider la horde.
Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas,
que la commune n'est pas morte. Ils ont fait acte de bandits, comptant sur le silence, achevé les blessés dans leur lit d'ambulance. Et le sang inondant les draps ruissalait sous la porte.
Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas,
que la commune n'est pas morte. Les journalistes, policiers, marchands de calomnies ont répandu sur nos charniers leur flot d'ignominie. Les Maximes du camp, les Dumas ont vomi hier aux portes. Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte.
La commune n'est pas morte. On se croirait à l'Athénée libertaire. Alors, la commune n'est pas morte. Nous avons choisi Francesca Soléville parce que c'est une chanteuse engagée qui a signé l'appel des 75 contre la guerre du Golfe et co-signe en 2018 une tribune soutenant l'appel des artistes palestiniens à boycotter l'édition 2019 du concours de l'Eurovision qui devait se tenir en Israël. Voilà, et on rappelle que La commune n'est pas morte a été écrite par Eugène Potier, auteur de l'Internationale, et que ça a été fait en mai 1886.
Vous êtes bien sûr La Clé des Ondes, c'est l'émission Achaïra. Et à chaque fois, on oublie de dire où est-ce qu'on est. Il me semble qu'on est une soirée particulière. Allez. Allez, c'est à vous.
Voilà, et donc, pour cette chronique internationale, nous reviendrons sur le cas connu de Julian Assange et sa défense par Noam Chomsky, qui devait être présenté lors de la précédente émission, mais qui a sauté, et que nous actualiserons aujourd'hui. Nous aurons aussi quelques brèves internationales, si nous en avons le temps.
Alors, effectivement, le tout dernier recours du célèbre hacker australien Julian Assange a eu lieu les 20 et 21 février 2024.
Voilà, la justice britannique a examiné la possibilité de faire appel de son extradition aux États-Unis, qui avait été acceptée en juin 2022 par le gouvernement britannique. Une audience décisive donc pour l'Australien de 52 ans, à laquelle il n'était pourtant pas présent à cause de son état de santé. Si cet ultime appel était écarté, l'extradition pourrait intervenir très rapidement dans les 48 heures. Ses avocats présenteraient alors un recours de la dernière chance auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Julian Assange, pour mémoire, est poursuivi pour avoir publié plus de 700 000 documents confidentiels concernant les activités diplomatiques et militaires américaines en Afghanistan et en Irak. En juillet 2010, ces documents sont révélés au grand public sur la plateforme Wikileaks qu'il a fondée en 2006. Il risque une peine de 175 ans de prison pour 19 chefs d'inculpation, dont espionnage et complot, selon l'acte d'extradition présenté à la justice britannique en mai 2019. Le 20 août 2010, deux Suédoises accusent Julian Assange de viol et d'agression sexuelle. Visé donc par un mandat d'arrêt international émis par la Suède, il se rend à la justice britannique. Il obtient ensuite une libération conditionnelle. Julian Assange trouve refuge à l'ambassade de l'Équateur à Londres à partir du 19 juin 2012. Il y passe 7 années, enfermé dans une salle de 30 mètres carrés, sans accès à l'air libre, afin d'éviter une extradition vers la Suède. L'enquête est finalement clôturée en novembre 2019, sans qu'aucune plainte n'ait été déposée par la justice suédoise à l'encontre de Julian Assange. Le changement de président en Équateur marque un tournant dans l'affaire Assange. Il est interpellé au sein des locaux de l'ambassade par la police britannique. Il est depuis enfermé dans la prison de haute sécurité à l'est de Londres.
Noam Chomsky l'a défendu lors du procès qui eut lieu en septembre 2020 au Royaume-Uni dans le cadre de la demande d'extradition des États-Unis. Il traite de la nature politique des actions de Julian Assange.
Chomsky rappelle l'observation de Samuel Huntington, ce professeur américain de sciences politiques connu pour son livre intitulé « Le choc des civilisations » paru en 1996. Les stratèges du pouvoir aux États-Unis doivent créer une force qui peut être ressentie mais non vue. Le pouvoir reste fort quand il reste dans l'obscurité. Exposé à la lumière du soleil, il commence à se dissiper. Les actions de Julian Assange, qui ont été qualifiées de criminelles, sont des actions qui exposent le pouvoir à la lumière du soleil. Des actions qui peuvent provoquer l'évaporation du pouvoir si la population saisit la chance de voir ses citoyens devenir indépendants d'une société libre plutôt que les sujets d'un maître qui opère dans le secret. On a compris depuis longtemps que le public a la capacité de faire s'évaporer le pouvoir. C'est pourquoi l'industrie des relations publiques est devenue la plus grande agence de propagande de l'histoire de l'humanité. Cette institution a vu le jour il y a environ un siècle, lorsque les élites ont réalisé que trop de libertés avaient été gagnées pour qu'il soit possible de contrôler les populations par la force, et que donc, ce sont les opinions qui devaient être contrôlées. C'est ce que Chomsky annonce, nomme par ailleurs la fabrique du consentement. Les documents qui ont été rendus publics ont très rarement quelque chose à voir avec la sécurité, sauf avec la sécurité des dirigeants face à leur ennemi intérieur, leur propre population. Le crime présumé de Julian Assange, en s'efforçant de dévoiler les secrets du gouvernement et de lever le voile du secret qui protège le pouvoir de la curiosité, l'empêche de s'évaporer.
Et quel a donc été le résultat de ce dernier recours ?
La Haute Cour britannique a rendu sa décision ce mercredi 27 mars 2024 concernant la recevabilité de l'ultime appel au Royaume-Uni pour empêcher l'extradition vers les États-Unis. Le jugement offre un répit, mais s'inscrit dans la continuité du calvaire judiciaire que subit Julian Assange depuis 14 ans. Les deux juges de la Haute Cour ont ouvert la voie à un appel, mais de façon limitée. Celui-ci porterait sur trois points, sur les 9 motifs de rejet de l'extradition présenté par ses avocats. Violation du droit à la liberté d'expression si Assange ne bénéficie pas aux États-Unis de la protection du premier amendement de la Constitution. Risque de préjudice en raison de la nationalité si Assange ne bénéficie pas en tant qu'Australien des mêmes droits qu'un citoyen états-unien. Les poursuites engagées par les États-Unis exposent Assange à la peine de mort. Le département de la justice US a pour l'instant refusé de s'engager à garantir qu'il ne serait en aucun cas exécuté. Dans le même temps, la Haute Cour invite Washington à présenter d'ici le 16 février des garanties sur ces trois points pour rassurer la justice britannique. Les États-Unis avaient remporté un appel en décembre 2021 contre le jugement de première instance en soumettant de telles garanties considérées comme très peu fiables par de nombreux observateurs avisés. On devrait savoir si Julian Assange est oui ou non définitivement autorisé à présenter son ultime appel. L'extradition redevient possible dans 2 mois. L'équipe de défense de Julian Assange était mécontente de la décision. La Haute Cour a en effet rejeté entre autres la nature politique des poursuites contre le fondateur de Wikileaks et le risque que l'extradition ne viole plusieurs de ses droits, droit à un procès équitable, droit à la vie, droit de ne pas être soumis à des traitements cruels ou inhumains. Il est dans l'essence du lawfare, instrumentalisation politique de la justice, de faire durer au maximum le supplice judiciaire et ses conséquences, tout en maintenant de très loin les apparences de l'état de droit. Comme l'a dit à de nombreuses occasions Stella Assange, cette affaire est à 1% juridique et à 99% politique. La mobilisation ne doit donc pas faiblir tant que Julian Assange ne sera pas libre.
D'autres informations internationales à propos de la Palestine, sûrement.
Par exemple, tous ceux qui expriment des idées nouvelles peuvent intervenir au sein de l'école pour mesurer leur effet sur un auditoire d'élite. Nous devons leur faciliter cette épreuve. C'est par cette phrase que le père fondateur de Sciences Po, Émile Boutmy, a exprimé au point de départ de la création de cette institution. C'est aussi ce que rappelle un communiqué de plus de 60 organisations étudiantes de Sciences Po dénonçant les interdictions et censures dans diverses Sciences Po de France sur la dénonciation du génocide en cours à Gaza. C'est aussi scandale d'État. La France arme le génocide, le gouvernement a menti. La France fournit à Israël des pièces pour des fusils mitrailleurs utilisés à Gaza. Ce sont les révélations du média d'investigation Disclose, déjà inquiété par la police pour ses travaux sur les ventes d'armes françaises, et de Mars Actu. Les enquêtes évoquent une cargaison expédiée en secret depuis Marseille, en totale contradiction avec les engagements du gouvernement français. Stop Arming France se prépare à lancer la campagne Pas d'armes israéliennes à Eurosatory 2024. Le Salon international d'armement Eurosatory va avoir lieu en région parisienne à Villepinte du 17 au 21 juin. Entre autres, il y a 69 entreprises israéliennes qui sont déjà annoncées. Des grands noms comme Elbit, IAI ou Raphaël seront présents. Et de nouveaux venus comme Smart Shooter, qui s'est fait connaître récemment car ses armes sont utilisées actuellement sur les Gazaouis, drones équipés de fusils sniper, Smash Dragon et pistolets automatiques en haut des immeubles, Smart Shooter. On pensait aux jeux vidéo. L'idée est de mettre la pression en amont sur l'organisation du salon, le JICAT, le lobby des entreprises d'armement en France. La revendication par d'armes israéliennes à Eurosatory 2024 serait un objectif atteignable, nous dit la campagne. Le Chili a bien interdit la présence d'Israël au salon de l'armement qui va avoir lieu en avril. À titre de comparaison, depuis son invasion de l'Ukraine, la Russie est interdite de venir dans de nombreux salons d'armement de par le monde. Malgré la résolution de l'ONU du lundi 25 mars, exigeant un cessez-le-feu à Gaza, les bombardements israéliens se poursuivent avec plus de 32 000 morts, dont environ une moitié d'enfants, depuis le 7 octobre 2023. La Cour internationale de justice a, elle, ordonné à Israël de laisser passer les livraisons de nourriture à Gaza. Une autre brève, à Gaza, il y a aussi le spectre des crimes de guerre commis par des Français que le gouvernement refuse de poursuivre. Enfin, le port Biden a 6 buts pour Gaza, mais aucun n'est humanitaire. Il s'agit d'ouvrir une nouvelle base militaire américaine, de poursuivre la militarisation de l'Eurasie après avoir installé une douzaine de bases en Syrie, aider Israël à s'emparer des énormes réserves de gaz palestiniennes au large de Gaza, décongestionner le port israélien de Haïfa et pouvoir fournir à Israël des armes, ce que les États-Unis font déjà dans ses réserves, et un soutien logistique pour la grande guerre qu'il a préparée contre le Liban. Enfin, titre le journal Le Monde, qui sont ses principaux fournisseurs d'armes? Dans l'ordre, ce sont les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, mais il y a eu un arrêt après le 7 octobre 2023, le Royaume-Uni, donc la France, on en a parlé, le Canada, l'Espagne, mais avec un arrêt aussi après le 7 octobre 2023, et enfin le Pays-Bas, avec un arrêt des livraisons après le 12 février 2024 par décision de justice en appel.
Voilà, tu as encore quelques brèves informations ailleurs dans le monde ?
Bien deux, voilà, ce mois d'avril, ce sera le 38e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl. Et donc ce sera aussi l'occasion d'un temps fort de la campagne antinucléaire de la Fédération anarchiste, avec dossiers dans le monde libertaire, animation, sortie du livre La Preuve, Pieuvre nucléaire, et des émissions sur Radio Libertaire, en particulier dans l'émission Trou Noir, qui en a déjà fait. Et enfin, pour finir, donc, il y a eu une grande mobilisation dimanche 24 mars à Buenos Aires, en Argentine, pour la commémoration du coup d'État de 1976. L'anniversaire de ce coup d'État se déroule malheureusement dans un contexte très grave et dangereux en raison du gouvernement de Javier Milei, président d'extrême droite, ultralibéral, négationniste des violations des droits de l'homme pendant les dictatures et qui fait l'apologie du terrorisme d'État et développe une politique antisociale, liberticide et répressive. Depuis son entrée en fonction, Milei et son gouvernement ont également promu un discours violent contre les mouvements des droits de l'homme et les organisations sociales, avec des insultes contre les victimes et les dictatures, et même les disparus, des mensonges, des fausses accusations et des menaces physiques contre les activistes. Voilà, vous pourrez retrouver les références et les sources de cette chronique internationale dans la version en ligne.
Je suis qu'un anarchiste, un citoyen de la terre qui rêve d'un monde meilleur où n'existe pas la misère. Un antifasciste, partisan de la liberté, celle qu'ils ont maudit puis volée à nos frères. Oui, restons solidaires et unissons nos colères contre ceux qui provoquent nos misères. On se battra tant qu'il faudra pour un monde plus égal, pour l'avenir de nos enfants et pour sauver des camarades. Je suis qu'un anarchiste, un citoyen de la terre qui rêve d'un monde meilleur où n'existe pas la misère. Un antifasciste, partisan de la liberté, celle qu'ils ont maudit puis volée à nos frères. Car c'est eux qui la détruisent, notre belle fraternité, à coups de capitalisme et de cruauté. Ça ne plaît pas aux dominants de ne plus leur être rentable, de ne plus servir leurs intérêts ni leur système à deux balles. Je suis qu'un anarchiste, un citoyen de la terre qui rêve d'un monde meilleur où n'existe pas la misère. Un antifasciste, partisan de la liberté, celle qu'ils ont maudit puis volé à nos frères. Ils nous traitent de scélérats, nous font passer pour les violents, pendant que leur état ne tient que par la répression. Des enfants
froid ni loin qu'ils voient en ceux qui refusent tout pouvoir. Et pourtant eux-mêmes sont les rois de la guerre et du pillage. Je suis qu'un anarchiste, un citoyen de la terre, qui rêve d'un monde meilleur où n'existe pas la misère. Un antifasciste, partisan de la liberté, celle qu'ils ont maudit puis volée à nos frères.
Voilà. L'atelier Anarconia, je ne suis qu'un anarchiste. Alors nous les avions découverts parce qu'ils faisaient partie de la programmation musicale à Saint-Imier cet été. Et voilà ce qu'on peut lire sur le site de l'atelier Anarconia. La forêt d'Hôte abritait autrefois un mystérieux village